La première, du lundi au vendredi, 11h midi. Question clé avec Véronique Thiberghien.
Bonjour, merci de nous rejoindre dans ce magazine Tendance et Société. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la transmission de l'information. Évidemment, dans une société comme la nôtre, savoir comment se transmet une information est un domaine presque de l'essentiel afin de mieux pouvoir la maîtriser, bien sûr. Mais si vous remplacez le terme information par le terme virus, eh bien, nous sommes dans le même schéma. Nous sommes sur la même équation mathématique. On va vous en parler dans un instant parce qu'aujourd'hui, il est possible de prédire avec une grande précision même ce que deviendra cette information, comment elle va circuler malgré certaines petites imprécisions. On en parle avec notre spécialiste du jour, il s'appelle Jean-Charles Delven. Et puis le neutrinote belge, nous allons faire sa connaissance vers 11h30. C'est ce belge qui donne régulièrement de l'information sur ce qu'il mange sur internet par exemple. Et bien grâce à l'information qu'il donne, nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir dire si les messages de santé alimentaire sont bel et bien passés dans la population ou pas. Il semble que ce soit le cas, par exemple, pour les fruits et les légumes, puisque le neutrinote belge mange 4 fois plus de fruits et de légumes que la moyenne et moins de viande, mais reste gravement, malheureusement, en déficit de fibres. Il va donc falloir travailler quand même sur certains messages. Nous en avions parlé avec Jean-Neve, professeur à l'ULB, président du Conseil supérieur de la santé, qui copilotait cette enquête sur le neutrinote belge.
La première, du lundi au vendredi, 11h midi. Question clé. Avec Véronique Thiberghien.
Prédire avec précision l'avenir d'une information, savoir ce qu'elle deviendra, comment elle touchera, qui elle touchera et à quelle vitesse, c'est le vœu de beaucoup aujourd'hui. Gourou de la publicité, patron de médias, apôtre du big data, en rêve bien sûr. Évidemment, déjà aujourd'hui, lorsqu'il lance une information, ce n'est pas une petite boulette qu'il jette à la mer en espérant qu'elle atteindra bien quelqu'un, non. En général, il vise une cible avec plus ou moins de précision. Mais si cette précision pouvait être encore un peu plus affinée, eh bien cela est possible aujourd'hui. D'accord, ça donne un petit côté effrayant, je trouve, en tout cas pour ma part, tant de pouvoir de manipulation à un si petit nombre, alors qu'aujourd'hui, justement, nous n'avons plus envie d'être manipulés. Mais si vous transformez le mot « information » ou « message » par le mot « virus », virus de la grippe par exemple, ou pire, virus Ebola, eh bien là par contre, savoir ce qu'il deviendra avec précision, comment il touchera, qui il touchera et à quelle vitesse, là on se dit que ça serait bigrement salutaire pour tout le monde. Et entre le virus et l'information, eh bien il y a un point commun, c'est la propagation évidemment. Le principe dans les deux cas elles-mêmes donc, il dépend aussi de facteurs qui sont sensiblement pareils. Et aujourd'hui, ils sont possibles à définir. Grippe, virus informatique, rumeur, opinion, pièces ou billets se transmettent d'une personne à l'autre au gré des rencontres successives, qu'elles soient réelles ou virtuelles. Mais qui est atteint? À quelle vitesse? Eh bien, ce sont évidemment des questions que se posent les médecins, les informaticiens, les sociologues ou les économistes. Jean-Charles Delven est professeur à l'École Polytechnique de Louvain-la-Neuve. Il analyse ces diffusions d'informations afin de déterminer quels sont les éléments qui accélèrent cette transmission. Le but? Évidemment, comprendre le processus afin d'enrayer la transmission du virus ou de la rumeur dès leur origine et le plus rapidement possible. Jean-Charles Delven, bonjour.
Bonjour.
C'était quand même assez audacieux, mais ça n'est que pour un mathématicien, à la limite, que l'on peut faire le lien entre un virus et une information, quelque part.
Voilà, ce privilège du mathématicien, c'est qu'il aime bien trouver des liens entre des situations apparemment très différentes. À force de simplifier, on va dire, évidemment, dans le détail, si vous voulez, le virus Ebola ou bien la propagation d'une rumeur ou d'un mème, donc d'une blague sur Internet, oui. Dans le détail, on va dire, c'est bien sûr des choses différentes, la vitesse de propagation ou le type de réseau social, le type de rencontre qui est nécessaire pour la propagation, bien sûr, c'est différent. Mais dans les grandes lignes, c'est un peu la même chose. Et donc, on peut analyser les deux en même temps et trouver des phénomènes communs aux deux.
Le point commun, c'est ça, c'est quelque chose qui se propage,
voilà,
c'est quelque chose qui se diffuse.
Exactement.
Le tout est de savoir évidemment comment il se diffuse. Alors c'est vrai que l'étudier, c'est quand même pas forcément évident de pouvoir le faire parce qu'il y a toute une série de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Vous avez surtout planché sur 2 facteurs qui, au départ, sont étudiés de manière très séparée et on va le comprendre pourquoi dans un instant. Vous les avez réunis, ces 2 facteurs, pour en tirer une meilleure précision dans la prédiction que l'on peut faire, évidemment. Alors, le premier facteur, évidemment, quand on a une information, c'est le réseau social. C'est on en parle à qui, cette personne va en parler à qui, etc. Et quel effet boule de neige ça va avoir, c'est ça?
Oui. Donc, si vous regardez l'analyse de ce genre de choses, on peut remonter à un siècle environ. Ça fait longtemps qu'on essaye de prédire les maladies, épidémies de peste par exemple, de choléra ou que sais-je, ou de grippe. Et apparemment, c'est quelque chose de très imprévisible, puisque ça dépend au jour le jour de qui vous allez rencontrer, du nombre de personnes que vous allez rencontrer. Et ça fait un siècle environ que les mathématiciens se sont rendus compte qu'il y avait quand même moyen de faire des choses, de faire des modèles, mais extrêmement simplistes. Parce qu'évidemment, idéalement, que ce qu'il vous faudrait connaître pour avoir la prédiction la plus précise possible, eh bien, il faudrait connaître le réseau social entier, disons, de la Belgique. Donc, vous avez un malade numéro zéro, si on prend l'exemple de la grippe.
Oui.
Un patient zéro qui arrive à Zaventem, par exemple, par avion. Et comment est-ce que le virus, le nouveau virus, va se répandre dans la Belgique? Eh bien, ce monsieur va infecter peut-être quelques-uns de ses amis, qui vont infecter quelques-uns de ses amis, qui vont infecter de leurs amis, et ainsi de suite. Donc, pour ça, il faudrait connaître la liste des amis de chacun. Mais également le détail des relations entre deux personnes, amis au sens large évidemment, ça peut être personnes qu'on rencontre simplement, on leur serre la main une fois, ça suffit. Il faut connaître aussi dans quel ordre, à quel moment on va rencontrer ces personnes. Donc, par exemple, imaginez que je sois infecté, je vous contamine, Madame Tibérien.
Oui.
Demain, vous contaminez votre invité du jour. Voilà. Si vous aviez programmé les émissions dans l'ordre inverse, évidemment, l'invité de demain
ne serait pas
contaminé. Donc, idéalement, il faudrait connaître tout ça. C'est bien sûr hors de portée. Et donc, ce qu'on a fait dans les débuts, c'est de faire des raisonnements très, très moyennisés, on va dire. Une personne en moyenne à la grippe est contagieuse pendant 3 jours, par exemple. Et pendant ces 3 jours, elle va rencontrer en moyenne, disons, une personne par jour. Donc, elle va contaminer ou infecter une personne par jour. Donc, elle va contaminer 3 personnes. Ces 3 personnes vont contaminer 3 personnes chacune, et ainsi de suite. Et par des raisonnements simples comme ça, on peut essayer d'estimer la propagation d'une maladie, par exemple. Une rumeur, ce serait pareil. Et ça marche parfois. Donc le premier exemple sur lequel ça a été appliqué, on a regardé les chiffres du nombre total de malades de la peste à Bombay en 1906. Voilà, il y avait une maladie là qui a été étudiée un peu numériquement pour la première fois. Et on s'est rendu compte que par un raisonnement de ce type-là, on arrivait à reproduire les chiffres. Voilà, donc premier succès, si vous voulez, des mathématiques en épidémiologie.
Mais pourquoi on ne s'est pas contenté alors de cet exemple-là qu'est-ce qui manquait on s'est aperçu qu'il manquait des choses, j'imagine, pour pouvoir l'améliorer. Il manquait quoi?
Voilà, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas.
Ouais.
Donc un exemple aussi où ça marche très bien, qui était répertorié un peu plus tard, c'est on avait une école, un internat de garçons en Angleterre. Et alors là, on a pu mesurer le nombre de personnes malades, de garçons malades jour après jour. Et là aussi, on pouvait le prédire là avec très grande précision. C'est un très bon exemple parce que là, on voit très bien que c'est un cas très particulier où tout le monde rencontre un peu tout le monde. Tout le monde est dans les mêmes locaux. Et donc forcément, si vous avez un malade, eh bien, il est susceptible d'infecter à peu près tout le monde avec la même chance. Donc les personnes se ressemblent fort les unes les autres et se voient souvent les unes les autres de manière homogène. Ce n'est pas le cas dans la vie réelle, à plus grande échelle, bien sûr. Si vous avez un malade à Bruxelles, très probablement la maladie va se répandre à Bruxelles d'abord, avant de se répandre à Liège, par exemple. Donc il faudrait déjà un modèle plus particulier, se dire, ah ben voilà, on va compter chaque ville séparément. Chaque ville séparément, c'est bien, mais même à l'intérieur d'une ville, si le malade est un enfant, il va très vite contaminer sa classe, par exemple, et de classe en classe, tous ceux de son âge, peut-être. De plus, des personnes d'âge différent auront des susceptibilités différentes, on va dire.
C'est pour ça que, par exemple, l'exemple ne fonctionne pas dans une famille, par exemple, où il y a des adultes et des enfants, et les adultes et les enfants ne réagissant pas de la même façon à ce type de virus, reprenons le virus de la grippe, par exemple.
Voilà.
On n'aura pas forcément le même schéma dans une famille que dans un internat de garçons, où là, vous l'avez dit, on a une population assez similaire.
Voilà. Donc, il faudrait compter chaque personne séparément, quelque part. Il faudrait savoir, pour chaque personne, des informations du type le nombre de personnes qu'elle rencontre, la probabilité d'attraper le virus quand on y est exposé. Certaines personnes voient beaucoup d'autres personnes dans la journée, d'autres très peu, restent chez elles. Voilà, il y a une très grande variabilité de comportement. De plus, la société, en général, est organisée non pas de façon homogène, mais de façon très très communautaire, on va dire. Mmh. Vous avez, voilà, par exemple, si vous répandez une rumeur, vous allez la répandre sur votre lieu de travail ou à votre école. Ce sont des gens qui, de nouveau, qui vous ressemblent. Les amis de vos amis ont une grande chance d'être vos amis à nouveau. On fonctionne en petit monde.
Ouais.
Et donc, une rumeur ou une maladie va être répandue très vite, peut-être, dans un certain cercle social, dans une certaine communauté, et va avoir plus de mal à atteindre le reste de la population au-delà de cette communauté. Voilà. Et donc, cette structure sociale qui est très compartimentée quelque part, très particulière, qu'il faudrait en principe connaître pour analyser une épidémie, par exemple. Et c'est ce qu'on fait, disons, avec des modèles de plus en plus compliqués. On regarde les villes, on regarde les âges, on regarde les sexes, etc. Mmh. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment regarder au niveau des individus, à la limite.
Mmh.
Et bien sûr, il y a un siècle, c'était impossible. Et de nos jours, on commence à se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une prédiction vraiment, vraiment de très haut niveau, parce qu'on a accès de plus en plus à des observations très fines sur le comportement des individus. Comment ? Eh bien, vous l'avez mentionné, ce sont les big data, les grandes données, les méga données. Ce sont toutes ces données qui sont collectées par ce que vous faites sur votre téléphone ou bien sur votre compte Facebook, etc. On peut, en principe, je dis bien en principe, connaître la liste de vos amis et les moments auquel vous êtes à proximité de ces personnes ou bien au moment auquel vous envoyez des messages.
On va voir comment affiner effectivement les choses, Jean-Charles Delven, avec vous, professeur à l'école polytechnique de Louvain, dans un instant, parce que dans l'exemple que vous avez repris, par exemple, de Bruxelles, avec une Bruxelles contaminée avant Liège, il y a fait qu'aussi, il y ait des nafteurs. Alors, si vous fréquentez plus un nafteur qu'un autre, ou que vous ne le fréquentez pas, la maladie se propagera plus vite à Liège ou pas. D'où l'intérêt d'affiner, évidemment, toutes ces données. Ce que nous allons faire juste après Liane Lahavas.
Véronique Thiberguien. Question clé jusqu'à midi sur la première.
Nous sommes avec Jean-Charles Delven, professeur à l'École Polytechnique de Louvain, et essayons de comprendre comment on affine aujourd'hui, comment on peut affiner véritablement le devenir, le destin d'une information ou même celui d'un virus. Le but étant évidemment de pouvoir enrayer la transmission de ce virus ou de cette rumeur. J'irai même un peu plus loin, Jean-Charles Delven, en disant que cela pourrait aussi permettre, pourquoi pas, d'accélérer les messages de santé publique afin de mieux combattre ce virus, ou même d'enrayer, effectivement, d'envoyer d'autres types de messages ou des contre-messages à une rumeur qui pourrait porter préjudice, non pas forcément à une seule personne, mais à un ensemble de personnes, par exemple. Donc, il y a vraiment les deux notions à mettre en face l'une de l'autre. On l'a dit, c'est quand même terriblement imprévisible. Nous sommes des êtres humains terriblement imprévisibles. Le virus est lui-même souvent imprévisible aussi. Alors, comment est-ce qu'on fait part et comment est-ce qu'on tient compte de ce côté imprévisible que nous avons tous et que le virus peut avoir lui aussi?
Oui, eh bien, la méthode pour prévoir les prévisibles, c'est en quelque sorte de faire des moyennes, de regarder statistiquement ce qui se passe. Évidemment, c'est impossible de déterminer si vous serez contaminé au jour J,
oui.
Mais on peut essayer le plus possible de faire des comptages agglomérés, c'est-à-dire combien de personnes dans cette ville seront atteintes, ou bien quel est le temps typique pour atteindre tout le réseau social, disons.
Oui.
Voilà, vous avez un malade ou vous avez une rumeur, voilà, ici, maintenant, eh bien, combien de jours est-ce qu'il faudra avant que tout le monde en Belgique sera exposé avec une forte probabilité, si vous voulez.
Mm-hmm.
Et donc, pour ça, eh bien, voilà, on a tout l'arsenal des statistiques qui nous permet d'essayer d'incorporer le maximum d'informations qu'on a. Donc, on a parlé des big data. Évidemment, si on a plus de données, on peut faire des modèles plus fins et donc on peut arriver à des prédictions, on l'espère, plus fines.
Ça serait une utilisation assez pointue de ces informations que l'on a engrangées aussi. Vous parliez des statistiques. Les statistiques, on en a sur les 50-60 dernières années maintenant, qui sont de plus en plus fines elles aussi, et qu'on peut donc utiliser dans ce but-là aujourd'hui. Mettre ensemble la connaissance que l'on a d'une personne et la connaissance que l'on a des possibilités ou de son imprévisibilité, comment est-ce qu'on met ça ensemble? Ça, c'était par contre assez inédit dans votre recherche, c'était de mettre les deux ensemble et de pouvoir trouver une espèce d'équation qui permette de tenir compte de ces deux variables.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai dit que l'analyse par ville, par exemple, par classe sociale ou par âge, voilà, c'est quelque chose qu'on peut déjà faire, mais parfois ça marche et parfois ça ne marche pas bien.
Oui.
On peut se demander pourquoi. Eh bien, il y a un autre phénomène qui a été découvert il y a beaucoup plus récemment, qui est dans la dynamique sociale. Ça, c'est intéressant. Quand on regarde, par exemple, les traces de communication des personnes par ces big data, ces communications téléphoniques, par exemple, Ce qui est frappant, et ce qui est une constatation nouvelle, c'est que les gens sont très irréguliers dans leur comportement et on peut quantifier à quel point ils sont irréguliers. Donc par exemple, si vous téléphonez à quelqu'un une fois par semaine, eh bien, dans certains cas, c'est vraiment littéralement une fois par semaine. Voilà, vous téléphonez à votre maman peut-être une fois par semaine, tous les samedis soirs. Voilà, donc vous avez une chance par semaine de transmettre une rumeur, un ragot par exemple. Mais de nombreuses fois, c'est beaucoup plus imprévisible que ça. Vous allez rencontrer cette personne ou lui parler genre trois fois dans la même journée, et puis plus pendant deux semaines par exemple. Ça, c'est aussi une fois par semaine en moyenne. Mais ce côté très imprévisible, très ramassé, si vous voulez, des communications, ces communications par flambée, par saccade, eh bien, ça va avoir un impact sur la propagation. Parce que ça veut dire qu'il y aura des grands trous de plusieurs semaines peut-être où vous allez rester isolé en quelque sorte. Mmh. Et donc, ce genre de phénomène va avoir tendance à ralentir une rumeur ou un virus, par exemple. Et donc, c'est ce facteur-là, peut-être, qui manquait à certains modèles et qui permet de voir que dans certains cas, c'est ce facteur-là qui est prédominant et qu'il faut absolument prendre en compte pour avoir une prédiction correcte d'une propagation, d'une diffusion.
Il y a moyen de le faire, de l'affiner aujourd'hui dans ce sens-là ? C'est quoi ? C'est un algorithme alors ?
Oui, alors justement, voilà, on a regardé sur des exemples particuliers, des bases de données particulières, et on peut justement, si vous regardez les traces de communication, par exemple d'email, on a une expérience par exemple dans une université américaine, on a demandé aux étudiants si on pouvait enregistrer les heures précises de leurs emails entre camarades, et à partir de là, on sait tout, si vous voulez, sur leur communication par email, en tout cas à l'intérieur du campus. Et on peut voir que là, de nouveau, on a à la fois des communautés, des groupes de gens de la même classe, par exemple, qui se parlent beaucoup les uns les autres, mais on a aussi des comportements très sporadiques, très irréguliers dans les heures. Hein, on peut envoyer 5 emails en 5 minutes, et puis tout d'un coup, voilà. Après, on va étudier et on n'envoie plus d'emails pendant plusieurs jours. Et alors, on peut quantifier ces deux choses-là. Et voir quel facteur est vraiment important. Est-ce que c'est vraiment l'aspect communautaire, le fait que vous parliez à des gens qui vous ressemblent, ou est-ce que c'est le fait que vous soyez très irrégulier ? Et on voit différents exemples. Par exemple, on a regardé un exemple, voilà, une simulation de maladies nosocomiales, c'est-à-dire les maladies au milieu hospitalier. Oui. Hein, on essaye de comprendre ce genre de propagation. Vous rentrez dans un hôpital un peu malade et vous ressortez très malade parce que vous avez attrapé un virus sur place. Et donc là, on a fait une expérience. Enfin, donc on a repris des données d'équipes qui ont fait une expérience. Les malades et les médecins, les infirmiers portent tous un petit capteur, un petit badge, si vous voulez. Et donc, quand deux personnes sont proches l'une de l'autre, ben on le sait parce que les badges
communiquent.
Les badges communiquent et enregistrent cette proximité physique. Oui. Et on regarde ces données-là. Et là, par exemple, c'est un exemple où précisément, c'est le côté très irrégulier, très imprévisible des communications qui régit la vitesse de propagation, le nombre de jours qu'il faudra pour que tout un hôpital, disons, soit
infecté.
Voilà. Par contre, dans d'autres exemples, on a regardé des exemples de relations sexuelles au Brésil, là, donc plusieurs milliers de données, aussi ramassées sur un site internet de gens qui racontent leurs exploits, on va dire. Et là, par contre, c'est vraiment la structure communautaire, le fait que les gens communiquent, dans ce cas-ci, à l'intérieur d'un cercle ou d'une ville particulière.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une recette magique pour la connaissance prédictive, entre guillemets, mais qu'il y a des éléments et des facteurs qui vont être plus importants que d'autres. Si je reprends l'exemple de votre hôpital et de savoir comment va circuler ce virus et ces maladies nosocomiales, ce qui va être important, ce sont les horaires et les personnes qui travaillent à ces horaires-là avec les échanges entre patients et professionnels, c'est ça ?
Voilà, exactement.
Tandis que dans l'autre élément que vous avez donné, c'est uniquement qui est en contact avec qui et le groupe social, comment il fonctionne, c'est la dynamique sociale. Donc c'est ça, ce sont ces clés-là qu'il faut avoir pour essayer d'avoir un caractère prédictif plus affiné, mais il n'y a pas une clé magique, quoi.
Exactement, ça va dépendre des situations et ça nous permet de voir si dans telle ou telle situation, il faut plutôt se concentrer sur un aspect des données ou un autre. Parce que ça reste un grand défi, même si ces données est ou bien seront disponibles pour essayer de prédire par exemple le virus Ebola ou par exemple les mouvements de population après un tremblement de terre ou une catastrophe. Alors on essaye de voir comment les gens vont se comporter. Par exemple, en regardant leur téléphone portable, mais que faut-il regarder ? Ça reste un très grand ensemble de données et ce genre de clés permet de savoir exactement quel modèle va le mieux marcher.
Maintenant, évidemment, lorsque les gens sont en contact les uns avec les autres, ils ont aussi tendance, comme vous l'avez dit, de même qu'ils sont imprévisibles dans la vie, à avoir des réactions imprévisibles. On va voir si vous tenez compte de cela aussi. Par exemple, si moi je sais que tous mes collègues sont malades et ont la grippe, par exemple, je ne vais plus aller à la RTBF et venir travailler, je vais rester cloîtré chez moi pendant quelques jours pour éviter d'avoir cette maladie. Est-ce qu'on tient compte de ce type de changement d'attitude aussi que l'on peut avoir? Et comment éventuellement en tenir compte également pour transmettre des messages, alors cette fois d'intérêt, pour pouvoir enrayer un virus ou pour pouvoir en tout cas améliorer les conditions de ceux qui essayent d'enrayer ce virus? On en parle dans un instant.
Jusqu'à midi, question clé sur la première.
Nous sommes avec Jean-Charles Delven, professeur à l'École Polytechnique de Louvain, pour analyser cette diffusion d'informations, ce que vous faites toujours le jour, d'ailleurs, Jean-Charles Delven. On parlait donc de ce qui va permettre, ces différents facteurs qui vont permettre d'analyser avec précision, et surtout comment choisir quel facteur et avoir une précision dans comment va se propager un virus ou comment va se propager une information. En la matière, est-ce qu'on tient compte aussi du caractère parfois changeant des personnes? C'est vrai que lorsque, par exemple, on a eu des épidémies de grippe, même chez nous en Belgique, on a vu quand même certains comportements changer, des gens qui s'isolaient un peu plus, qui n'étaient plus en contact avec les autres, etc. Ce qui est une réaction, somme toute, assez normale. Est-ce qu'on en tient compte?
Oui, alors, ça c'est un autre intérêt des big data pour essayer de comprendre et de prévenir les épidémies, ou de les accélérer s'il s'agit d'une épidémie d'information, c'est-à-dire une information pour... pour que les gens adoptent le bon comportement, on peut essayer de prévoir avec plus grande précision possible ce qui va se passer. Est-ce que telle ou telle politique d'information publique va être utile ou non? Donc, par exemple, on peut faire des simulations. Imaginez qu'on dise aux gens de rester chez eux, ou bien imaginez par contre qu'on le dise, ok, vous pouvez sortir, mais restez dans votre ville ou de rester dans votre quartier, ou ne fréquentez que les gens que vous fréquentez habituellement. Voilà. Laquelle de ces deux politiques va porter ses fruits, sachant que l'une est beaucoup plus difficile à implémenter que l'autre? Eh bien, en regardant les réseaux sociaux, on peut savoir en temps réel ce que les gens font, puisqu'on peut voir au jour le jour, en principe, s'ils commencent à bouger moins ou au contraire gardent leur comportement. On peut espérer aussi diffuser alors à tel ou tel moment des informations du type restez chez vous ou bien restez dans votre ville et voir les faits en temps réel sur le terrain. Donc ça, c'est l'aspect positif des big data, des grandes données qu'on peut...
C'est que ça permet de faire évoluer le message d'une certaine façon et de le faire évoluer de manière efficace.
Voilà, les épidémies se propagent très vite, la situation est très changeante, il faut constamment mettre des ressources médicales par exemple, ou bien faire passer des messages d'information publique sur le terrain en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc on a vu avec le cas d'Ebola, les choses vont très vite et on est parfois débordé par la rapidité des situations. Les statistiques, par exemple, données par les médecins ne remontent pas toujours très vite vers le gouvernement. Avec, par exemple, les téléphones portables, vous savez où sont les gens, je dis de manière agrégée, bien sûr, on ne s'intéresse pas au comportement de tel ou tel individu, mais plutôt du nombre d'individus qui se déplacent de telle région vers telle autre. Et donc, on peut, en temps réel, voir le comportement et s'adapter en fonction de ce qui se passe.
Ce qu'on fait avec les oiseaux migrateurs, par exemple, pour les pestes animalières qui circulent, par exemple, dans le nord du Canada et dans l'Amérique du Nord en ce moment même, avec une forte propagation, c'est d'analyser les comportements migratoires afin de pouvoir mieux cibler où on doit intervenir et où on doit éventuellement confiner, pendant combien de temps on doit confiner les animaux. Ici, évidemment, on l'a dit, il y a quand même une recherche qui est faite pour essayer d'enrayer des propagations de virus, mais aussi de rumeurs. En même temps, on se dit que cette information peut être manipulée ou pas, en fonction d'eux. Est-ce que ce côté pouvoir au caractère prédictif, le pouvoir sera celui qui prédira le mieux finalement et aura la connaissance prédictive, c'est pas un petit peu, c'est un petit peu effrayant aussi?
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est la base du marketing viral, par exemple. Enfin, si vous prenez des applications commerciales, vous pouvez, au lieu d'offrir un produit à toute la population, seulement l'offrir à des personnes influentes du réseau. et espérer que par le bouche à oreille, d'autres personnes, les amis, des amis, etc., vont l'acheter. Alors ça, c'est un aspect plus commercial. Maintenant, des aspects vraiment plus néfastes. On l'a vu, le danger des big data avec la NSA, on peut observer les gens, on peut peut-être éventuellement les manipuler. Donc ça, c'est le côté toujours dual de la science. Vous découvrez un nouveau phénomène, vous pouvez l'utiliser pour le bien, de façon neutre, ou bien pour des applications plus répréhensibles.
Ça, il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain, parce que comme on l'a dit, ça pourrait permettre aussi de faire en sorte qu'un message de caractère de santé publique passe mieux, vers une population mieux ciblée, et ainsi éviter parfois de grandes catastrophes. Et c'est le but de votre recherche. Je le rappelle, Jean-Charles Delven, vous êtes professeur à l'École Polytechnique de Louvain. Vous analysez la diffusion de l'information, et aujourd'hui, vous le faites avec un caractère et une précision assez phénoménale. Merci d'être venu nous parler de vos recherches dans cette émission. Et puis, bonne continuation, vous nous tenez au courant. On se verra peut-être pour la prochaine, le prochain virus de la grippe qui viendra chez
avec
nous
plaisir.
En Belgique pour en reparler. En tout cas, dans quelques instants, on va parler des neutrinos de Belges. Comment recevez-vous aujourd'hui les messages de santé alimentaire, par contre? Les avez-vous bien intégrés? Il semblerait que oui, mais il y a encore du travail. Podcast.